Radio Éthique.
Écoute la planète.
Chaque jour, un tête-à-tête sur la planète, c'est l'invité de Radio Éthique.
Avouez que certains ont des cartes de visite plus impressionnantes que d'autres.
Éric Duchemin, je suis professeur associé à l'Institut des sciences de l'environnement de l'UQAM et membre du collectif de recherche en aménagement paysager et agriculture urbaine durable, mentionné de manière un peu plus sympathique, crapaud.
Crapaud.
Oui, le crapaud. Et on est spécialisé en agriculture urbaine, on fait des interventions sur l'université, on fait de la formation, de la recherche sur l'agriculture urbaine et un large réseau international.
Et comment se fait-il que vous soyez co-organisateur du colloque de nature Parif?
En fin de compte, nous avons une école d'été depuis 6 ans et l'année passée, on a eu l'idée d'offrir quelque part cette idée-là à d'autres. On a dit « Ah, ce serait le fun que ce soit organisé ailleurs qu'à Montréal ». Donc, on pourrait développer quelque part un réseau des écoles. Il y a eu Strasbourg qui a dit « présent la première année » et cette année, on est à Paris. Donc, moi, j'ai rencontré en fin de compte les gens de la mairie de Paris. En disant, ah, c'est une bonne idée que ce soit à Paris. Eux, ils disent, oui, mais des élections, c'est pas trop. Et de là, Nature Paris, ils disent, ah, mais nous, on le prend, on va le faire. Pour recréer un peu l'ambiance de Montréal qui est très mobilisée par les citoyens, par les groupes. Donc, c'est très fédérateur. C'est pas très universitaire. C'est plutôt, on fait l'agriculture urbaine. On réfléchit et on voit comment on peut s'entraider et aller plus loin encore ensemble pour changer cette ville minéralisée et bétonnée.
À Montréal, justement, en quoi ça avance bien?
Montréal, en fin de compte, est un exemple à travers le monde. Enfin, tout le monde à travers le monde dit, Montréal, c'est vraiment l'exemple de la culture urbaine, sauf les gens de Montréal, bien entendu, nul n'est prophète en son pays.
Donc vous êtes mieux que Toronto, alors?
Mais en fin de compte, Montréal a une histoire beaucoup plus ancienne. Depuis 1970, a commencé un programme de la culture urbaine, a commencé en même temps que New York. Et nous sommes rendus à 95 jardins communautaires pour 8500 parcelles, ce qui donne à peu près de la place pour 15 000 personnes. Donc c'est 8600 familles, 15 000 personnes à peu près, qui ont des lieux. Après ça, on a aussi des jardins collectifs qui sont développés. On est rendu à 100 de jardins collectifs. On a des ruchers, on est rendu à près de 300 ruchers. Donc vraiment, c'est très mobile.
300 ruchers?
300 ruchers. Cette année, on devrait atteindre le 300 ruchers parce que ça se développe c'est développé en 4 ans. Paris a une longue histoire des ruchers en ville. Nous, c'est tout récent, mais ça s'est développé en 3-4 ans. On est passé de presque aucune ruche à 300 ruches. Et on sent aussi une dynamisme à Montréal incroyable. Il y a quelque chose qui s'appelle le droit d'initiative à Montréal. Donc, ça veut dire que si on réussit à avoir 15 000 signatures sur un sujet, la Ville de Montréal est obligée de déclencher des consultations publiques. C'était jamais arrivé, mais on a dit pour l'agriculture urbaine, on trouvait que la ville s'ignorait un peu. On disait toujours, Montréal est une ville nourricière qui s'ignore. Et là, on s'est dit, il faut faire quelque chose. Donc, on a été chercher les signatures et on avait 3 mois pour le faire. On a été chercher 30 000 signatures. Donc, 30 000 personnes ont signé une pétition papier. On oublie l'Internet et l'électronique. Donc, papier dans la rue. Donc, ça a déclenché une consultation publique qui a mis Montréal. On s'est dit, ah oui, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Il y a vraiment un mouvement citoyen. Et donc, c'est un peu ça qui se passe à Montréal. Si on regarde à l'extérieur de Montréal, Toronto, il y a des choses intéressantes aussi. Ils se développent différemment, mais ils sont à 2000 parcelles de jardins communautaires. Vancouver était tout content d'avoir atteint 2500 parcelles pour les Jeux olympiques. Donc, on voit vraiment que Montréal est un fer de lance. Et on le sent aussi parce que beaucoup de chercheurs, de jeunes étudiants viennent nous voir pour voir ce qui se passe à Montréal. Mais pour notre part, on aime bien aller voir ailleurs ce qui se passe pour nous inspirer nous-mêmes parce que c'est très intéressant, le mariage, la diversité culturelle des projets, la diversité basée aussi sur le bâti de la ville n'est pas pareille, donc les projets ne sont pas pareils du tout.
On va laisser passer la moto, on va faire une initiative citoyenne contre le bruit à Paris, on sera extrêmement soulagés, voilà.
Et il paraît que Montréal est la ville la plus brillante du monde.
Ah, vous avez tous les records, décidément. Hein?
C'est ça, on a tous les
records. Vous êtes les plus forts, là, quand même.
Mais on laisserait celle-là, le plus brillant. Mais effectivement, Paris est Paris est intramuros, il reste moins bruyant, mais il faut faire avec. Mais si on regarde l'agriculture urbaine, il y a les vergers urbains à Paris.
Justement, Paris, c'est une ville quand même qui est très dense. Hein. 100 km², c'est quand même pas beaucoup. Comment est-ce que vous avez vu ça?
Mais parce que les projets à Paris, effectivement, sont en général petits, petite envergure, mais sont toujours associés à des projets culturels, de mobilisation citoyenne.
Ah, il y a quelqu'un de Toronto qui nous a fait la même réflexion. C'est qu'à Paris, il y a toujours la touche artistique par-dessus les carottes et les poireaux.
C'est à peu près ça. Et on regarde un jardin partagé, il y a toujours une scène, il y a toujours une buvette. C'est un espace...
C'est normal, on mange, on boit aussi.
Et c'est ça. Et c'est donc des espaces festifs. Ce qu'on ne trouve pas à Montréal. À Montréal, c'est vraiment l'agriculture.
C'est pas drôle.
Non, c'est un peu moins drôle. Mais nous, on le fait. À l'école d'été, on se dit, on fait des jardins, on fait des interventions. Cet été, on a privé à notre école d'été d'envoyer les gens pêcher en ville avec des...
Pêcher en ville?
Oui, avec des bouchons de liège, mais sans hameçon, avec des pancartes en disant c'est aussi possible de se nourrir des poissons de la ville, pourquoi pas? Donc, on veut faire aussi des événements comme ça. On fait toujours des événements festifs. plus ou moins légaux, mais ça fait partie des choses.
Plus ou moins légaux.
Oui, on a déjà remplacé un stationnement de voiture par un jardin, ce qui est tout à fait illégal à Montréal, parce que le stationnement de voiture doit être utilisé pour une voiture. Mais nous, on a dit, on va faire un potager. Et on avait planté un potager.
Vous êtes gonflé quand même.
Hein? Oui, pour des sans-abri qui étaient juste là. Et quand ils nous ont vu arriver, tout le monde était là. Ah, c'est génial, je vais m'en occuper. Oui, ça va être le fun. Malheureusement, le jardin est resté 2 jours. Mais ça fait partie des démonstrations. On s'est dit, mais c'est possible de remplacer la voiture, laisser un peu moins de place à cette voiture-là et pour faire des potagers. Donc, on fait des démonstrations comme ça, un peu symboliques, mais qui marquent l'esprit. Une année, on a lancé une pétition sur la poule, le retour de la poule à Montréal, parce que la poule est un animal de ferme au Québec, ce qui fait en sorte qu'on ne peut pas l'avoir en ville. C'est pas un animal domestique et c'est interdit. Donc, on s'est dit, on va lancer une pétition. C'était ma poule à Montréal, le retour de la poule à Montréal. Et donc, ça a fait un gros mouvement, ça sorti dans les médias, parce que tout le monde disait « Ah oui, les poules, etc. » Et tout le monde, bien entendu, était contre. Et notre initiative à nous, c'est on voulait pas savoir qui... Si on voulait pas nécessairement en avoir, on voulait seulement que les gens réfléchissent et commencent à discuter sur cette question-là. Et tout ce mouvement-là qu'on a suscité a fini par déboucher sur les fameuses consultations publiques. Donc, c'est un peu notre action comme ça, qu'on fait politique, on fait des mobilisations un peu festives, tout en faisant de la formation sérieuse et en faisant de l'intervention, de la recherche pour faire avancer et aller plus loin et dire... Notre question, on se dit, est-ce qu'on pourrait nourrir la ville par l'agriculture urbaine? Et jusqu'où on pourrait aller? Et quelles seraient les implications? Donc, on a une vision en disant, on met l'utopie très haute, mais on se dit après ça, bon, est-ce qu'on peut l'atteindre? Et si on l'atteint, quels vont être les impacts pour les autres acteurs de la société, les autres éléments de la société? Parce que le monde rural qui est présent, les agriculteurs qui sont biologiques, qui sont là, entretiennent le paysage, les régions sont... Il y a quand même du monde dans cette région-là. Donc, quel est notre impact? Est-ce qu'on peut faire des maillages? Est-ce que peut-être on peut les aider aussi? À cette époque de mondialisation, les agriculteurs ont du trouble à survivre, où les gens mangent de moins en moins bien. Donc, est-ce qu'on peut développer, grâce à l'agriculture urbaine, une vision alimentaire plus large, un système alimentaire différent, alternatif,
qui est important, en fait, c'est de développer cette vision, justement.
Qui va donner des choix et qui va jouer un rôle de justice alimentaire aussi. Parce que est-ce normal encore dans nos pays où, logiquement, on devrait tous pouvoir manger, qu'il y a du monde qui ne mange pas à leur faim, qu'il y a des enfants qui vont à l'école qui n'ont pas pu déjeuner. Donc, l'agriculture urbaine, c'est un peu ce mouvement-là de re-questionner les choses alimentaires et urbanistiques dans notre société moderne actuelle.
C'est bien ce que vous faites. Petite question, ça pousse vraiment à Montréal? Parce que, bah oui, on est comme ça, les Parisiens.
Oui, c'est... effectivement.
On voit des glaçons à chaque fois.
Oui, ouais. Il y a des glaçons, et effectivement, ça pousse pas l'hiver. Mais l'été, je peux vous dire que ça pousse tellement vite. C'est comme si les légumes savaient qu'ils étaient à Montréal. Ils disaient qu'il faut rattraper le temps perdu. Alors, ils poussent, et même nous, en faisant des mesures de productivité, au mètre carré, on est plus productif à Montréal qu'à Paris. Il faut dire qu'on produit sur des beaucoup plus petites superficies. On est très intensif. Et ça produit, personnellement, moi, j'ai un jardin, j'ai 40 mètres carrés, et je produis pas loin de 130-140 kilos par année de fruits et légumes. Ma nouvelle récolte s'en vient. Je vais rentrer à Montréal. Je m'inquiète de mon jardin, mais il y a quelqu'un qui s'en occupe.
Vous n'avez pas retrouvé la maison au milieu du jardin?
Alors, il y a du monde qui s'en occupe. Et je sais que je vais arriver. Je vais avoir des nouveaux légumes, des nouveaux fruits. Mais enfin, avant de partir, j'ai mangé mes fraises. On doit cueillir à peu près 2 kilos de fraises. Des très bonnes fraises.
Ah, quand même!
Oui, ça produit sans problème. Effectivement, notre saison est plus courte, mais on en profite au maximum. Pendant que c'est le temps. Et après ça, on transforme, on congèle pour l'hiver, où on reste chez soi, bien emmitouflé, devant le feu.
Quelle carte postale, quand même. Est-ce qu'il y a un blog où on peut vous retrouver, un site Internet?
Oui, enfin, on a plusieurs sites Internet, mais l'un, c'est Agriculture
Montréal. Vous êtes actif, hein?
Oui, on est très actif. Il y en a un qui s'appelle agriculturemontréal.com. Donc, il y a tout le mouvement de l'agriculture à Montréal se trouve là. Il y a une cartographie. Personnellement, nous avons deux sites. C'est olab.ucam.ca, UQAM.ca, et l'autre, c'est le crapaud.ucam.ca, et crapaud s'écrit comme un...
Voilà, on ira vous piquer des idées parce qu'elles sont bonnes, vos idées, quand même. Hein?
Oui, mais je peux même vous dire qu'il n'y a pas le crapaud. Nous avons aussi la fille et le tétard. Qui est le fonds étudiant en environnement, entre autres. Et le Tétard est une table de concertation pour l'aménagement du campus. Donc, on a beaucoup d'idées de ce genre.
De quoi faire mentir qu'il ne faut pas manger de fraises en hiver? Éric Duchemin, professeur et membre très actif du Crapaud. Tout sur olab.ucam.ca et bien sûr, lecrapaud.ucam.ca.
C'était une interview réalisée par Pascal Marcacci.